Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En grec, bâtard se disait natos, né d'une esclave ou d'une concubine. Un bâtard, une bâtarde. Terme péjoratif, insultant quoi qu'il en soit. La bâtardise dérangeait l'ordre de la lignée. En Europe comme en Inde, la bâtardise était sujet de moquerie, de rejet, à moins d'être un bâtard noble. Les blasons racontaient l'histoire des bâtards. La législation française a évolué, heureusement, au cours des siècles. Dans les après-midi de France Culture, Valère Bertrand proposait le 5 mai 1980 un documentaire, Centre de gravité, les bâtards.
Les bâtards. Salut le chien-chien.
Salut Ami.
Ami n'est qu'un chien que des amis ont récemment adopté. La première fois que je l'ai vu, ce n'était qu'une pauvre petite bête traumatisée qu'il était bien difficile de caresser. Le vétérinaire avait dit « Bof, ce chien, c'est qu'une place publique. » Et puis, 15 jours après, ça allait déjà beaucoup mieux. 15 jours de caresses et d'amour qui avaient redonné de la fierté. La pitié, chez les humains, avait fait place à de l'intérêt. Qui était-il ? Son goût pour l'eau et son regard intelligent faisaient penser maintenant à une naissance plus illustre. « Il y a du Labrador, » disait-on. C'est ce qui nous a donné l'idée de cette émission. Philippe Devailly, vétérinaire, qu'est-ce que c'est qu'un bâtard ?
On peut dire que le commun des mortels a tendance à employer indifféremment le mot « corgneau » ou celui de « bâtard » pour désigner un chien sans race. Or, il ressort des définitions admises actuellement par les cynophiles que le corgneau est un mélange de races, un véritable cocktail de races qui n'appartient pas à une race définie, alors que dans les ascendants du bâtard, il y a toujours un ou le père ou la mère, qui sont d'une race bien définie, même d'une race pure, alors que l'autre est soit d'une autre race différente du mari et du congénère, soit étant simplement un corgneau. Mais l'un des deux ascendants est de race pure. C'est le cas de le beagle arrière, du gascon saintongeais, des chiens anglo-français, qui sont des chiens courants. Et on ne veut pas oublier ici même une race qui a été récemment reconnue en France, d'origine allemande d'ailleurs, le rasier, qui est un croisement de tcho-tcho pur avec du spitz-loup pur. Moi, j'ai personnellement une chienne cornio qui est rattachée à un genre, elle pourrait ressembler à un spaniel, si vous voulez, c'est ce genre de, comme un espagnol breton. Enfin, c'est une cornio. Elle est c'est un cocktail de races. Et puis un autre chien qu'on pourrait penser être un bâtard, mon cocker, qui lui est presque de race pure. Enfin, il y a certainement un des deux ascendants qui était pur cocker.
Mais comment on s'y retrouve dans tout ça?
Eh bien, simplement que quand vous avez un chien qui a une allure absolument indéfinie, qu'on ne peut rattacher à aucun type connu, on peut dire que c'est un cornio. Mais ce n'est pas un bâtard. Tandis que le bâtard, en vérité, a donné souvent naissance, d'ailleurs, quand il a été bien fixé et génétiquement fixé, donne des animaux qu'on peut rattacher à une espèce, à une race définie.
Et les chiens entre eux?
Alors les chiens entre eux, ben vous savez que toutes les races de chiens appartiennent finalement peuvent se mélanger entre eux. Autrement dit, un Saint Bernard et un Chihuahua, s'il n'y a pas une question de taille et d'impossibilité physique, pourraient fort bien avoir des descendants. Et si on a fait une insémination artificielle, on pourrait très bien obtenir des descendants. Évidemment, il faudrait faire des césariennes dans le cas de la chienne étant chihuahua. Mais par conséquent, les différentes races que l'on connaît peuvent très bien avoir des produits et des enfants entre eux. Donc c'est simplement à l'homme de dicter les croisements et de maintenir certaines races.
Et dans leur comportement, est-ce qu'il y a des différences?
Alors, dans les comportements, évidemment, il y a tous les chiens de chasse. Il y a ce qu'on appelle le pur cornio. On a dit qu'ils étaient plus intelligents. On a dit qu'ils étaient moins sensibles aux maladies. On a raconté un tas de choses. Finalement, ce sont des animaux qui sont sensibles aux mêmes maladies qu'un pur sang chow-chow ou bien un fox terrier superbe qui a remporté des prix. Les uns ne sont pas plus fragiles que les autres, disant que la consanguinité dans certaines races peut entraîner, par exemple, une certaine nervosité, un nervosisme un peu maladif, ou des troubles plus ou moins patents de la peau chez certains fox. Ça existe. Mais enfin, les corneaux ne sont pas forcément ni plus intelligents, ni plus résistants que les animaux de race pure.
La consanguinité, les croisements, la préservation de la race pure. Autant de termes inventés par l'homme qui nous ramènent directement à lui. Je vous propose, avant de voir comment cela s'est passé en Occident, de jeter un petit coup d'œil en Orient, en compagnie de Nicole Balbi, qui est professeure d'Hindi à l'Université des langues orientales.
En Inde, d'abord il faut comprendre une chose, c'est qu'à la base de tout, il y a en Inde le concept de pureté et d'impureté. Et c'est sur cette base qu'est divisée la société indienne en quatre grandes classes que l'on appelle des varnas, dont le sens littéral du mot c'est couleur, n'est-ce pas? Donc ça a à faire également avec la race. Et ces quatre varnas sont les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Donc vont être bâtards tout mélange entre les castes régénérées et la caste des non-régénérés, c'est-à-dire des shudras. De ces mélanges de castes sont nés des sous-castes et sont nés des hors-castes. Le mariage entre castes est permis dans certaines conditions, c'est-à-dire un homme d'une caste supérieure peut épouser une femme d'une caste inférieure. C'est ce qu'on appelle le mariage anuloma, qui n'est pas recommandé par les textes, mais qui est permis. C'est dans cette optique de conserver la pureté de la race et de la caste que ont été établies des règles du mariage qui sont très strictes et qui ont évolué au cours des siècles dans le sens de restrictions de plus en plus considérables. Le maximum des restrictions s'est établi surtout au début de l'ère chrétienne et jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où la présence occidentale en Inde a incité à des réformes. C'est dans un souci de préservation de pureté de la caste que l'on a incité les parents à marier leurs enfants, et notamment leurs filles, de plus en plus jeunes, d'abord aux environs de l'âge de la puberté, et ensuite avant la puberté, pour éviter tout danger de bâtardise, c'est-à-dire tout danger d'union illicite et d'union faite en dehors de la caste. Parce que de toute façon, les mariages, et de nos jours encore, sont toujours arrangés par les parents, précisément dans cette optique de trouver pour leur fille et leur fils une femme et un mari qui soient de la même caste que la leur. Tous les enfants qui sont nés d'union platyloma, c'est-à-dire de femmes de caste supérieure et d'hommes de caste inférieure, seront des enfants de basse caste, et notamment ce qu'on appelle des chandal, c'est-à-dire ceux qui sont tout à fait à la bas de l'échelle sociale et qui sont cantonnés dans les travaux de nettoiement et les travaux les plus sales. Ils habitent en dehors du village, dans des quartiers qui leur sont réservés, et c'est ce qu'on a appelé en Occident les intouchables, n'est-ce pas ? Eux-mêmes, alors, en se mariant entre eux, donnent naissance à des enfants qui, eux-mêmes, appartiennent à des castes impures. Bien entendu, les mariages contractés avec des personnes d'une autre religion qui se situent en dehors de l'ordre hindou, c'est-à-dire les mlechas, produisent des enfants hors caste. En ce qui concerne les enfants naturels, qui est un autre type de bâtard, il faut considérer plusieurs cas. Ou bien l'enfant est né d'une femme non mariée et il est nommé Kanina et il appartient à son grand-père maternel et au futur mari de sa mère. Ou bien l'enfant est né d'une femme qui était enceinte au moment de son mariage, secrètement ou non, et il sera considéré comme le fils du mari légal, mais sera placé très bas dans l'ordre d'héritage. Et enfin, les enfants adultérins, s'ils sont rejetés par le mari légal, sont considérés comme hors caste.
Comment était vécue cette condition ?
Cette condition, elle n'engendre pas de rébellion, car toute personne reçoit sa seconde naissance, puisqu'on croit à la métempsychose. Donc toute personne renaît selon les actes qu'elle a posés dans la vie précédente. Donc si vous êtes né, si vous avez la malchance de naître hors caste, ça n'est pas exactement par hasard, c'est parce que dans une vie antérieure, vous aurez fait de mauvais actes qui feront que vous devez naître dans la nouvelle vie dans une condition inférieure. Ça n'est pas par rapport à un péché des parents, c'est par rapport à ses propres péchés dans une vie intérieure.
Et est-ce qu'il y a eu des exemples célèbres de contours de cette loi, ou tout au moins de tentatives ?
Alors, il y a eu des exemples célèbres. Le seul moyen pour un hors-caste de sortir de ce système est de se convertir à une autre religion. C'est ainsi que beaucoup de hors-castes se sont convertis au christianisme ou au bouddhisme ou au djinnisme. Et l'exemple le plus important peut-être, et qui n'est pas lointain, c'est à l'époque de Gandhi, la conversion d'un avocat très célèbre qui était de l'ouest de l'Inde, le docteur Ambedkar, qui avec lui un grand nombre de personnes, il était intouchable, il était hors-caste, un grand nombre de hors-castes se sont convertis en bloc au bouddhisme.
Comme témoignage des divers degrés de mépris ou de considération où les bâtards se trouvaient autrefois en notre bel Occident, il faudrait rappeler quelques-uns des jolis noms qu'on avait l'habitude de leur donner. En France, par exemple, c'était les termes de fils de bas ou bâtard, fils de lisse qui signifiait fils de chienne, pisse-nez, né de la pisse. En Allemagne et dans les Pays-Bas, c'était plutôt enfant d'immondice, fils vomi, fils de putain, couvée de coucou. En Suède et au Danemark, c'était plus proche du chien, enfant de coin, enfant de place, enfant de la caverne. Les seuls qui faisaient exception, c'étaient les Suisses. Chez eux, les noms n'avaient rien d'odieux. Enfant joli, enfant d'amour, et surtout cette dernière expression qui nous rapporte à l'histoire, fils de prêtre. Philippe Contamine, historien du Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge, pour qu'il y ait bâtard, il faut qu'il y ait naturellement mariage chrétien. Loyal mariage, loyal matrimoine, comme disaient les textes du temps. Et c'est dans la mesure où il y a cette idée d'un mariage régulier, à la face de l'Église, reconnu, établi, un mariage monogame, un mariage indissoluble, que tous ceux qui ne sont pas nés à l'intérieur de ce mariage sont considérés comme des bâtards. Et l'Église catholique a mis beaucoup de temps à mettre au point et surtout à imposer aux populations de l'Occident médiéval cette idée du mariage chrétien. Et on peut dire seulement que c'est au XIe, XIIe siècle qu'elle y a réussi. Si bien que le type du bâtard, du point de vue de l'Église, apparaît seulement au XIe, XIIe siècle. Et pour l'Église, le bâtard, celui qui est de naissance illégitime, est considéré comme un irrégulier. Et du même coup, il ne peut pas accéder aux ordres sacrés. Il ne peut pas devenir clerc, il ne peut pas devenir prêtre, il ne peut pas devenir, a fortiori, évêque. Sauf dispense. Mais une dispense qui n'est pas accordée par toutes les autorités religieuses. Même un évêque, en principe, n'a pas le droit d'accorder cette dispense. C'est une dispense pontificale, réservée au pape. Et nous avons pour la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, des sources assez abondantes conservées aux archives du Vatican, à Rome, où l'on voit des listes de dispenses accordées par les papes aux bâtards, et en particulier aux bâtards de prêtres. Je crois que pour tel pontificat du 14e siècle, peut-être la moitié des dispenses concernent des bâtards de prêtres. C'est-à-dire des enfants, des fils nés d'un prêtre et de sa concubine, de sa servante, si l'on veut. Ce qui n'a pas empêché, naturellement, les papes de la fin du Moyen-Âge. Ce sont les plus excessifs, en particulier des gens comme Innocent VIII ou Alexandre VI Borgia, d'avoir eux-mêmes leurs bâtards et de les présenter, de les faire vivre à la curie pontificale, apparemment sans l'ombre d'un problème. Donc, vous voyez une attitude rigoureuse de l'Église à l'égard des bâtards. Et ils portent une sorte de macule, un petit peu comme il y a une macule servile, de même que pour le serf, s'il veut devenir clerc, il faut qu'il y ait une sorte de libération accordée par le Seigneur, accordée par l'Église, de même pour le bâtard. Et cette idée que le bâtard ou la bâtarde est en dehors des cadres normaux de la chrétienté, elle se met en place au XIe siècle et elle est encore très vigoureuse au XVe et au XVIe.
Mais Philippe Contamine, le bâtard, c'est aussi un système juridique.
En effet, le bâtard, c'est un statut juridique en même temps qu'une condition sociale. Il faut considérer en effet qu'au Moyen-Âge, finalement, votre position dépendait de façon très étroite de l'hérédité. C'est quand même une société dominée par l'hérédité des titres, l'hérédité des dignités, l'hérédité des pouvoirs et l'hérédité des biens temporels. Il n'y avait pas cette idée qui aujourd'hui est couramment admise que chacun a à faire sa propre carrière. On était puissamment déterminé par les prédécesseurs, par les ancêtres. Alors, du même coup, le bâtard, quelle est sa condition vis-à-vis de l'hérédité ? Eh bien, le bâtard est considéré comme incapable d'hériter. Alors, vous voyez tout de suite que cette condition est extrêmement précaire. Incapable d'hériter, encore qu'il y ait des différences selon les coutumes. car le droit médiéval, même à l'intérieur du royaume de France, n'est nullement un droit unifié. Il y a un très grand nombre de coutumes et on s'aperçoit que, du point de vue de la bâtardise, les coutumes divergent assez sensiblement. Disons qu'il y a un premier type de coutume où les bâtards ne peuvent hériter des biens du père, mais sont héritiers de plein droit des biens de la mère. Alors, cette condition est relativement favorable. Il y a d'autres régions, peut-être plus importantes en nombre, où la coutume est la suivante. Le bâtard n'hérite ni des biens du père ni des biens de la mère. Cependant, les parents sont autorisés dans leur testament à accorder au bâtard une part de l'héritage. Cette part n'est pas illimitée. Et il y a d'une part les biens immobiliers et le bâtard ne peut recueillir plus du cinquième des biens immobiliers, c'est pour ainsi dire la quotité disponible, et d'autre part les biens meubles, et là le père, la mère sont très libres et à la limite ils peuvent accorder l'ensemble, la totalité de leurs biens meubles au bâtard. Voilà par conséquent la règle. J'ajoute que cette règle n'est pas nécessairement défavorable. Dans la mesure, par exemple, où lorsque un bâtard est né d'une mère serve et d'un père serf, bien, normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit serf comme ses parents. Eh bien, nullement, parce que il de par sa condition, de par sa naissance illégitime, il échappe, pour ainsi dire, à la condition de ses parents. Et il ressortit, non pas aux droits particuliers d'où ses parents relèvent, mais il ressortit de la condition commune. Or, le servage n'était pas considéré comme la condition commune au Moyen-Âge. C'était une condition qui était comprise comme dérogatoire à la condition commune, une sorte d'exception fondée par l'histoire. Du même coup, le bâtard a une condition, pour ainsi dire, naturelle et qui implique la liberté. En sorte qu'on voit quelquefois dans les sources médiévales des gens qui sont issus en légitime mariage de parents serfs et qui déclarent « nous sommes des bâtards » et ainsi ils espèrent obtenir la liberté. J'ajoute également dans le même domaine, dans le domaine du droit, que le bâtard traîne ce qu'on peut appeler sa macule, son infériorité juridique pendant toute son existence. À preuve, le fait que, toujours dans certaines coutumes, il ne faudrait pas généraliser, si un bâtard meurt sans testament, ses biens reviennent à son seigneur. Il ne peut donc pas les transmettre. Mais s'il fait un testament en faveur de tel ou tel de ses descendants, direct à ce moment-là, le seigneur ne récupère pas ses biens. Ses biens sont considérés comme des épaves, des choses épaves, au même titre, par exemple, que les biens des étrangers, de ceux qu'on appelle les aubains. Vous voyez par conséquent que pour les gens du Moyen-Âge, le bâtard, c'est une condition juridique vraiment à part et la plupart des coutumes de l'époque consacrent un certain nombre de chapitres, de paragraphes, à la condition et aux incapacités juridiques du bâtard, incapacités qui peuvent être plus ou moins marquées selon les cas.
Mais qu'est-ce qu'on leur reprochait ?
Je crois qu'on ne leur reprochait rien. Évidemment, ça nous paraît absurde, cette idée que toute leur vie, ils traînent, pour ainsi dire, ce péché originel. Mais je crois qu'effectivement, la société médiévale est une société où tout le monde est considéré comme solidaire et où il existe cette notion de culpabilité collective. Alors, de même que la transmission du péché originel de parents à enfants, et ainsi de suite, qui se fait, selon la conception médiévale, en même temps que l'acte de génération, eh bien, de même, les bâtards, nés d'un relation qui est condamnée par l'Église, que ce soit une relation entre deux personnes célibataires, que ce soit une relation incestueuse ou adultérine, que ce soit une relation entre un clerc et une laïque ou inversement, eh bien, les bâtards participent de la faute de leurs géniteurs. Voilà, c'est cette idée de responsabilité collective qui, à l'époque, il faut bien le dire, ne faisait pas problème et était admise plus ou moins par tous. Alors, il était entendu que quelqu'un qui avait des relations en dehors du mariage et qui avait des enfants donc en dehors du mariage, il prenait un risque et il avait des responsabilités à l'égard de sa descendance. D'autre part, l'Église était assez libérale. En ce sens que si deux personnes vivaient en concubinage sans être mariées, et puis avaient eu des enfants, et puis à un moment elles décidaient de se marier, eh bien il y avait une sorte de rite. On se mariait à l'église, et l'essentiel du rite c'était finalement se placer sous un drap, sous un voile. Et les deux personnes qui se mariaient ainsi se plaçaient sous ce drap en présence d'un prêtre et de divers témoins, et ils plaçaient en même temps leur enfant au singulier ou au pluriel. Alors, du même coup, ces enfants étaient considérés comme légitimés. Ils rentraient à l'intérieur de cette vaste catégorie, le loyal mariage.
Les bâtards de gentilhomme n'étaient tenus pour nobles et ne pouvaient prendre le nom de leur famille que du consentement des intéressés. Et au cas où ils venaient à être anoblis, ils étaient tenus à une certaine subtilité. Michel Pastoureau, héraldiste.
Le système héraldique européen impose, à partir d'une certaine époque, une marque spéciale aux bâtards introduite dans l'écu. À l'origine, ça n'existe pas, au XIIe et XIIIe siècle. Les bâtards, comme les autres enfants, on reprend l'écu des parents en introduisant des brisures, c'est-à-dire des différences ordinaires. Puis à partir de l'époque de la guerre de Cent Ans, ces brisures, ces marques différentielles réservées au fils du vivant du père ou au cadet du vivant de l'aîné, deviennent spécifiques pour les bâtards. Il y a différentes figures, plus ou moins grosses, plus ou moins visibles, mais le système propre aux bâtards se met en place en France et en Angleterre à la fin du XVe siècle et est définitif au XVIe siècle. Alors l'une de ces figures la plus répandue, c'est une barre, c'est-à-dire un trait oblique qui traverse l'écu en diagonale de droite à gauche. Alors normalement, elle doit être très grosse. La tendance est de soudoyer les artistes, si j'ose dire, pour que cette barre, qui est la marque typique de la bâtardise, n'apparaisse pas trop fortement dans les armoiries. Donc on la fait étroite lorsque c'est possible, et puis on la raccourcit, ce qui fait que c'est une toute petite figure posée en diagonale au milieu de l'écu au XVIIe et au XVIIIe siècle. Quelque chose d'intéressant concerne les armoiries imaginaires. À partir du XIIIe siècle ou la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, la figure héraldique typique pour les bâtards dans les armoiries attribuées à des personnages légendaires, c'est un léopard, c'est-à-dire une sorte de lion à bâtardie, représenté horizontalement au lieu d'être vertical. Et une légende assez forte voulait, au Moyen-Âge, que le léopard ne soit pas une espèce à part entière, mais le fruit de l'accouplement de la lionne avec le mâle de la panthère, que l'ancien français appelle le par. Donc le résultat de cet accouplement, c'est le léopard. Et il s'est trouvé que les rois d'Angleterre, pour des raisons tout à fait autres, avaient dans leurs armoiries trois léopards. C'est encore les armoiries du Royaume-Uni. Et ils étaient furieux de cette propagande en faveur du léopard, signe de bâtardise, qu'il y a eu lieu à l'époque de la guerre de Cent Ans. Et ils ont donné ordre à tous les professionnels du blason anglais et du continent, mais ils n'étaient pas respectés sur le continent, d'appeler leur léopard « lion » pour les différencier de ces léopards signes de bâtardise. C'est très amusant, le vocabulaire anglais a entériné cet état de fait, et aujourd'hui encore dans les traités de blason, ce que les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols appellent « léopard », les Anglais les appellent ça « lion ».
Et on retrouve ces marques de bâtardise seulement en France ou dans les autres pays à forte tradition héraldique?
Voilà, alors elles sont plus répandues en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, à partir donc de la fin du Moyen-Âge, où vraiment leur usage est très grand. Plus on va du haut en bas de l'échelle sociale, plus elles sont répandues. Hein. Pour les princes, c'est difficile de dissimuler leur bâtardise. Pour des petits nobles, c'est peut-être plus facile. Dans les pays autres que la France, les Pays-Bas et l'Angleterre, leur usage est beaucoup moins grand. C'est le cas des régions germaniques, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne et de la Scandinavie. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'un système héraldique voisin du système héraldique européen, comme l'est celui du Japon médiéval et du Japon moderne, ignore tout à fait les marques de bâtardise à l'intérieur des armoiries, alors que par ailleurs, la structure de ces armoiries est assez semblable à celle que l'on rencontre en Occident.
Et c'est cette marque que l'on impose par les règles héraldiques et aussi par la loi. Combien de temps dure-t-elle dans une famille ?
Alors c'est intéressant de voir qu'en général, ça dépasse rarement une génération. C'est-à-dire que le fils d'un prince qui est un fils bâtard doit mettre cette marque dans ses armoiries, il ne peut pas la dissimuler. Mais ses enfants, qui sont en général des enfants légitimes, donc normalement bien qu'issus de bâtards, ne sont pas bâtards eux-mêmes, ont tendance à la faire disparaître le plus rapidement possible, soit en changeant complètement d'armoirie, soit en la supprimant et en gardant l'écu tel qu'il était avant l'introduction de cette marque de bâtardise. Alors un autre exemple bien connu est celui des deux fils bâtards de Louis XIV, le comte de Toulouse et le duc du Maine, qui l'a légitimé assez tardivement dans son testament, mais qui, du vivant de leur père et même longtemps après, avaient dans leur écu, qui était reproduit à la cour un peu partout, des marques de bâtardise bien visibles. Il est très intéressant de voir que les enfants du comte de Toulouse, du vivant même de leur père, ont repris les armoiries de ce comte de Toulouse en supprimant la marque de bâtardise. Pour ce qui est du duc du Maine, il assumait mieux que son frère cadet, cette marque de bâtardise. Et c'était devenu, alors qu'il était chef d'un parti politique d'opposition au régent après la mort de Louis XIV, sa marque de bâtardise typique était devenue l'emblème de ralliement de son parti. Sa cour était à Sceaux. Il y a eu des conspirations politiques sous la régence et le signe de reconnaissance, c'était ce qui était à l'origine, la brisure de bâtardise du duc du Maine.
Nous retrouvons Philippe Contamine pour voir les différentes figures de bâtards au Moyen-Âge.
Je crois qu'il y a différents types de bâtards, différents types et différentes époques. On dit toujours, et je crois que c'est assez vrai, qu'à l'intérieur de ce Moyen-Âge que j'envisage, disons de l'an 1000 à 1500, cinq siècles, il y a une période où les bâtards de nobles, semblent avoir un rôle particulièrement important, c'est le XIVe et le XVe siècle, avec une certaine crise morale et avec une certaine crise du couple. Peut-être est-ce un peu ambitieux, mais enfin, c'est ainsi une certaine immoralité qui se répand dans les différentes classes de la société. Alors, effectivement, pour le XIVe et pour le XVe siècle, on voit des bâtards de nobles, il ne s'agit pas de bâtards originaires de roturiers, il ne s'agit peut-être même pas de bâtardes, car la figure de la bâtarde est beaucoup plus rare que la figure du bâtard. Mais des bâtards de nobles affichent le nom de leur père, le revendiquent avec fierté, et avec d'autant plus de fierté, naturellement, que leur père est d'un rang plus élevé. Et c'est ainsi qu'on a répertorié le nombre des bâtards de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au XVe siècle, et on s'est aperçu qu'il y en avait 30, 35, 40, un véritable milieu social, et on a fait leur généalogie. Et ce qui est peut-être plus caractéristique encore, c'est le fait que, en tout cas, dans le duché de Brabant, à la fin du XIVe et au début du XVe, tous les bâtards de princes s'étaient associés pour former une confrérie d'entraide mutuelle. Et on a conservé aux archives du Brabant, à Bruxelles, un acte scellé de dizaines de sceaux de bâtards où ils s'engagent, somme toute, à se porter secours mutuellement. Alors, on pense naturellement à un certain nombre de grands personnages de l'époque, du XIVe et du XVe siècle, qui sont des bâtards et qui ont fait parler d'eux. Songez à Henri le Bâtard, Henri de Trastamar, qui a été candidat au trône de Castille au XIVe siècle contre son compétiteur, Pierre le Cruel. Et il y a eu toute une longue guerre à ce sujet, Henri le Bâtard étant appuyé par les Français et Pierre le Cruel appuyé par les Anglais. Et en fin de compte, c'est le Bâtard qui l'a emporté. Si bien que c'est un Bâtard qui est devenu roi de Castille, ce qui malgré tout a fait scandale. Car enfin, le propre même de la succession monarchique, quelles que soient les règles, c'est la légitimité. Mais peut-être que la Castille, la péninsule ibérique, était un monde particulier, considéré par les uns ou par les autres un petit peu marginal, avec des règles un petit peu spécifiques, et Henri le Bâtard, finalement, s'est imposé. Du reste, nous avons un autre exemple, l'exemple du pape Pie II, qui, avant de devenir pape, un pape du XVe siècle, avant de devenir, son nom c'était Aeneas Silvius, de la famille Piccolomini, un homme tout à fait remarquable, un humaniste de grand talent, un diplomate. Et avant de devenir pape, eh bien, on connaît assez bien sa vie, il avait des bâtards, il en parle, etc. Il a laissé un certain nombre d'ouvrages, et en particulier, il est l'auteur d'une première histoire de l'Europe, une des premières du genre. Et dans un de ses ouvrages, il nous dit à peu près tous les princes du temps sont des bâtards. Sans doute n'est-ce qu'une pointe, mais enfin, il y avait une sorte de soupçon généralisé qui pesait sur les uns et sur les autres dans la chrétienté des XIVe et du XVe siècle. Alors, songeons à d'autres noms. Il y a, par exemple, Dunois, le bâtard d'Orléans, le compagnon de Jeanne d'Arc. Vous voyez, par conséquent, comment des personnages comme ceux-là ont pu avoir un rôle. Et on s'est dit, mais s'ils avaient un rôle, c'est parce qu'ils y étaient acculés. Il fallait qu'ils fassent eux-mêmes leurs preuves. Il fallait qu'ils se taillent une place dans la société. Et effectivement, quand on regarde la composition sociale des armées du temps, on s'aperçoit qu'à l'époque des plus grands désordres, disons entre 1400 et 1450, par exemple, pour la France, la proportion des bâtards de nobles est spécialement importante. Atteint quelquefois 10% du contingent. 10% de noms sont indiqués, bâtards de Hautefort, bâtards d'Estouteville, etc. Et puis alors, quand il y a une remise en ordre de la société, ça se passe en France, disons, avec le règne de Louis XI et de Charles VIII, après la grande crise de la guerre de Cent Ans, on voit la proportion de bâtards diminuer. Donc, il y a probablement un lien assez étroit entre les désordres sociaux, en général, les crises, et puis la montée des bâtards, leur rôle de plus en plus important. Les bâtards étaient spécialement nombreux, semble-t-il, parce qu'il y a une géographie des bâtards de nobles qu'on explique assez mal, mais enfin qu'on constate, en tout cas, en Gascogne, dans l'ensemble de la Languedoc, mais surtout en Gascogne, les bâtards n'étaient pas appelés bâtards, mais ils étaient appelés bourgs. Et le terme de bourg vient probablement de mulet. C'est burdeau en latin, c'est le mulet, c'est-à-dire l'animal engendré par un cheval et une ânesse. Alors il y a, par exemple, j'ai sous les yeux un texte du milieu du XVe siècle qui est extrait d'une lettre de rémission. « Y celui Pierre appela le suppliant Arlot, taquin, bourg, qui vaut autant dire en langage du pays, garçon, truand, bâtard. » Vous voyez l'équivalence du bourg et du bâtard. Et en tout cas, au début du XIVe siècle, les bourgs de Gascogne étaient si nombreux que là aussi, ils formaient des associations, et des associations un petit peu de malfaiteurs, de truands, de bandits, une sorte de mafia qui, naturellement, faisait régner l'insécurité. J'ajouterai encore, pour en terminer avec cette période, XIVe, XVe siècle, que c'est probablement l'époque du Moyen-Âge où les bâtards de nobles ont eu une condition relativement favorisée, à preuve le fait que dans les testaments de ces nobles, on voit régulièrement une partie de l'héritage être attribuée aux bâtards. Alors, nous rejoignons par conséquent le point de vue juridique. Nous avons vu que, à condition de faire un testament, quelqu'un a le droit de léguer quelque chose à son bâtard, mais il y a le droit et il y a le fait. Et le fait est le suivant, au XIVe, XVe siècle, les bâtards sont régulièrement couchés dans les testaments. Et l'on voit qu'on leur accorde un fief, qu'on leur accorde de quoi vivre, qu'on leur accorde de quoi soutenir leur état, c'est l'expression qui était employée. Et nous voyons également que lorsqu'un noble meurt, son épouse accepte de conserver au foyer les bâtards de son feu mari.
Avec François Théré maintenant, juriste, un léger débroussaillage sur la pointe des pieds de la condition des bâtards jusqu'à nos jours.
Évolution lente pendant tout l'Ancien Régime, mais qui reste fidèle à l'héritage de la romanité. Les siècles longs de l'Ancien Régime attestent l'existence d'une distinction entre les deux types d'enfants. L'enfant naturel, né hors mariage, né de parents célibataires, ou l'enfant naturel qui a cette particularité d'être aussi un enfant adultérin, parce que l'un ou l'autre de ses deux parents était lié dans les liens du mariage. Ces enfants illégitimes vont pouvoir assez facilement établir l'existence d'un lien de filiation avec l'un ou l'autre de leurs parents. Mais cette reconnaissance, cette affirmation officielle, cette reconnaissance du lien de filiation n'entraîne pratiquement pas de conséquences pendant longtemps, à ceci près que ces enfants pourront quand même, quand ils sont dans le besoin, obtenir des aliments de leurs parents. Des aliments, l'expression est large, elle signifie ce qu'il leur faut pour subsister dans une société difficile lorsque véritablement ils sont dans le besoin. Telle est pour la plupart des enfants illégitimes les conséquences de leur statut, de leur situation. Il en va quand même autrement dans les familles nobles où davantage a été reconnu le statut d'enfant légitime du point de vue des conséquences même qui pouvaient en résulter. C'est dans ce cadre que l'on peut retracer les histoires célèbres et les conflits célèbres sur les bâtards des rois Louis XIV et j'allais presque dire à notre époque Louis XV. La suite, c'est encore la Révolution française. Les philosophes des Lumières ont profondément influencé la matière. Le mouvement égalitaire est poussé à son paroxysme sous la Révolution, un paroxysme d'ailleurs dont il ne faut pas exagérer l'importance. Il faut bien distinguer l'égalité réelle et l'égalité formelle. Et la législation révolutionnaire, celle de la loi de Brumaire, une loi de Brumaire célèbre, va aboutir à donner aux enfants illégitimes quelque chose, mais à leur retirer d'une main ce qu'on leur donne de l'autre. Ils vont pouvoir prétendre à des droits bien plus substantiels comme conséquence de l'établissement officiel de leur filiation. Mais hypocrisie des choses, il leur sera beaucoup plus difficile du coup d'établir officiellement l'existence d'un lien de parenté avec la mère ou avec le père naturel. Le Code civil est sur ce point davantage un héritier des conceptions hiérarchiques traditionnelles de la famille. Il ne faut tout de même pas ne pas tenir compte de l'espèce de compromis qu'il réalise entre diverses traditions, mais il est marqué en matière familiale par l'influence autoritaire de Napoléon, qu'il s'agisse de la situation de la femme ou de la situation de l'enfant, le tout se concrétisant par des pouvoirs importants, autoritaires, reconnus au chef de famille, au mari, doté de la puissance maritale et de l'autorité paternelle. Le résultat, c'est que les enfants illégitimes vont être traités soit de manière humiliante quand il s'agit de l'enfant naturel simple, soit comme un paria lorsqu'il s'agit de l'enfant adultérin. Enfant naturel simple, il dépendra du bon vouloir de ses parents s'ils estiment nécessaire et possible de le reconnaître, reconnaissance paternelle ou reconnaissance maternelle. Et si ce n'est pas le cas, l'enfant naturel simple pourra peut-être agir en justice relativement facilement contre sa mère, mais de manière très difficile contre son père. Il faudrait que pour cela, dans le système du code civil, que le père ait enlevé la mère comme si c'était une Sabine à l'époque de la conception. Situation des enfants adultérins en 1804, elle est bien plus dure encore. Ce sont des parias, ils ne peuvent être ni reconnus, ni agir en recherche judiciaire de paternité, que ce soit à l'égard de la mère ou à l'égard du père. Quand donc pourraient-ils voir leur situation juridique officiellement établie ? Pratiquement uniquement dans les cas où le mari de la mère voudrait agir en désaveu pour détruire cette présomption célèbre et traditionnelle suivant laquelle les enfants qu'une femme mariée met au monde sont présumés être nés des œuvres du mari. Le mari, dans certains cas, peut quand même, à l'époque, agir en désaveu de paternité. Il doit le faire vite et dans des cas difficiles, dans des conditions strictes. Alors, en pareil cas, bien évidemment, la situation juridique de l'enfant adultérin est officiellement établie, mais cet enfant adultérin dont la filiation est de la sorte officiellement dégagée, éprouvée, ne peut obtenir en conséquence que des droits alimentaires s'il est dans le besoin. Encore, et c'est bien le signe de toute une époque, encore ne peut-il les obtenir si ses parents lui ont fait apprendre un art mécanique. L'art mécanique est l'accès, la promotion sociale en quelque sorte de l'enfant adultérin. Un art mécanique tient lieu d'aliment. L'évolution au XIXe siècle va être marquée bien évidemment par un certain nombre de progrès, des réformes partielles progressivement, à mesure peut-être aussi qu'un certain développement de l'illégitimité se reliant à l'industrialisation de la société française appelle davantage l'attention du législateur. Mais les progrès sont très lents, on voit accroître les droits successoraux de l'enfant naturel, on le voit même devenir un héritier réservataire dans certains cas, on voit se construire une famille naturelle de cet enfant qui jusqu'alors était isolé et sans famille, au sens large et profane et correct du mot. Ces progrès se manifestent d'ailleurs aussi dans la possibilité d'obtenir officiellement l'établissement de sa filiation, la reconnaissance est maintenue bien évidemment, mais s'agissant de l'action judiciaire en recherche de paternité, l'enfant va pouvoir plus facilement agir pour forcer ses parents, ceux qui l'ont mis au monde, à admettre qu'il est bien leur fils ou leur fille naturelle. Surtout, c'est à l'égard du père qui résistait davantage, avec l'appui d'ailleurs des sénateurs, que les progrès seront réalisés en 1912. On augmentera les cas possibles d'action en recherche de paternité naturelle. Mais tout de même, pour l'époque, les sénateurs veillaient. Ils avaient peur des filles mères et du chantage que la fille mère, disait-on, pouvait exercer, on dirait aujourd'hui la mère célibataire, contre l'auteur qu'elle dit l'avoir séduit. De là, la réforme essentielle réalisée par la loi du 3 janvier 1972 et qui atteste un bouleversement complet, c'est le premier depuis 1804 qui est opéré en France en matière de filiation. Il s'ordonne d'ailleurs autour de deux grandes idées-forces. Tout d'abord, l'affirmation du principe d'égalité. D'autre part, l'affirmation grandissante d'un principe de vraisemblance. Égalité d'une double manière. D'abord, parce que le système nouveau aboutit, au moins en ce qui concerne les conséquences attachées à la filiation, à assimiler les enfants naturels simples aux enfants légitimes. Les enfants naturels simples ne seront plus réduits dans la succession de leurs parents à la moitié de la part qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes. Ils ont les mêmes droits que les enfants légitimes nés donc dans le mariage. La naissance hors mariage et la naissance dans le mariage, à cet égard, produisent les mêmes conséquences. Il est vrai qu'en ce qui concerne ces enfants naturels simples, des différences subsistent quant au mode d'établissement officiel de leur filiation. Les modes précédents sont maintenus, mais sous cette réserve donc, le principe d'égalité produit des conséquences essentielles. On a dit que cette loi de 1972 était avant tout une loi d'égalité. Mais il faut bien voir que l'existence même de ces enfants n'était pas dans le passé nécessairement ignorée, et qu'en définitive, ce qui semait les mois davantage, c'était en quelque sorte l'obligation, à la suite de ces reconnaissances ou de ces affirmations plus généralement officielles de la filiation, de partager le patrimoine familial. Ce furent surtout des considérations de gros sous qui animèrent l'inquiétude des familles légitimes. Il ne faut pas exagérer, il y eut souvent des problèmes difficiles et dramatiques, n'en disconvenons pas, mais si l'on se rappelle les péripéties de la succession de Picasso, il faut bien voir que les affaires de finances primaient parfois les affaires de sentiments. Quoi qu'il en soit, s'agissant des enfants adultérins, la réforme de 1972 n'aboutit quand même pas à une égalisation complète des droits, parce qu'il a fallu tenir compte des intérêts justifiés du conjoint de l'époux coupable et des enfants légitimes issus de ce mariage, ce qui aboutit, pour schématiser un peu les règles applicables, à constater qu'en matière successorale, les enfants adultérins n'obtiennent pas les mêmes droits que tous les autres enfants, qu'il s'agisse des enfants légitimes ou des enfants naturels simples. Les enfants adultérins sont en quelque sorte traités dans le droit nouveau comme l'étaient les enfants naturels simples sous l'empire du droit ancien. Ils obtiennent dans la succession de leurs parents, de leur père adultérin ou de leur mère adultérine, la moitié des droits qu'ils auraient eu s'ils avaient été enfants légitimes. Je répète, c'est en schématisant à propos de ce droit si complexe qu'est le droit successoral. En ce qui concerne plus particulièrement le phénomène de l'adultérinité dans la société française, il faut bien voir aussi que des réflexions inspirées des données sociologiques et démographiques peuvent nous être aujourd'hui d'une grande utilité pour envisager l'avenir. Il y a, nous le savons bien, trois catégories au moins d'enfants adultérins. Les enfants adultérins du fait de leur mère qui était mariée avec un autre que leur père au moment de leur conception, ce qu'on appelle les enfants adultérins à matrée. Ceux-là, bien souvent, la tradition, peut-être inspirée aussi par le roman, le vaudeville ou bien d'autres choses, a eu tendance à considérer que leur existence était en quelque sorte une source de ridicule pour le mari de la mère. Il y a les enfants adultérins du fait de leur père, qui était marié avec une autre que leur mère au moment de leur conception, les enfants adultérins à patrée. Et cela, il semble que dans notre société européenne, tout au moins, ils aient été souvent considérés avec plus d'indulgence et de bienveillance par la société en général. Et puis, il y a évidemment aussi ceux qui cumulent les deux qualités, qui sont à la fois adultérins du fait de leur mère et du fait de leur père. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, l'impression que l'on retire de l'analyse des données jurisprudentielles, des statistiques judiciaires, c'est qu'au fond, il y a peu d'actions en justice les concernant. Peut-être pour diverses raisons, le souci de ne pas troubler le sacro-saint repos des familles, peut-être aussi de la part de certaines mères naturelles, lorsque l'enfant est adultérin apatré, le souci de garder leur enfant pour elles. Toujours est-il que, plus que les autres enfants illégitimes, les enfants adultérins, et le droit positif actuel s'en ressent, sont considérés en France encore comme le signe d'un phénomène de déviance, plus accentué en quelque sorte. Mais est-ce que cette situation va durer? Est-ce que l'on peut considérer que cette attitude et cette image de l'adultérin dans la société va se maintenir? À vrai dire, Il peut se faire que leur nombre diminue, et diminue plus même que le taux de dénatalité ne pourrait le faire penser, car le progrès de la contraception et la libéralisation de l'avortement, évidemment, leur profitera. Il y a, en quelque sorte, a-t-on dit, une stérilité de l'adultère dans les statistiques judiciaires. Cette stérilité risque d'augmenter dans les années à venir. Mais il y a peut-être dans l'avenir quelques ressources plus intéressantes pour le savant et qui tient, mais on devine les dangers qui peuvent en résulter pour la famille, des analyses et des progrès de la biologie, voire de la génétique. Lorsque l'on pourra savoir avec des certitudes qui aboutissent maintenant à ce que l'on puisse considérer qu'une analyse sanguine, par exemple, permet de dégager le lien de paternité dans 99,9% des cas. Lorsque, d'autre part, on constate que les analyses des groupes sanguins permettent de déterminer que tel enfant ne peut absolument pas être le fils du mari de sa mère, lorsque l'on ajoute que peut-être les progrès de l'éducation ou quelques progrès apparents de l'éducation permettront à l'enfant de connaître tout cela et de l'apprendre à l'école quand on ne lui aura rien dit dans sa famille. Peut-être que la détection des enfants illégitimes, des enfants adultérins parce que leur mère a été infidèle, pourra être mieux connue du savant, mais cela correspondra peut-être aussi à quelques développements d'une crise dans la famille légitime.
C'était Centre de gravité, les bâtards, par Valère Bertrand, avec la participation du docteur Philippe Devailly, vétérinaire, Nicole Balbi, professeur de hindi à l'école des langues orientales, Philippe Contamine, historien du Moyen-Âge, Michel Pastoureau, héraldiste, François Théré, juriste. Réalisation Noureddine Saouni, première diffusion dans les après-midi de France Culture le 8 mai 1980. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Thank you.